Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Une émission du SAV qui n'est ni avant un Grand Prix, ni après un Grand Prix, mais un SAV qui est pendant un week-end de Grand Prix. Oui, c'est une de nos nouvelles formules version 2014, le SAV des qualifications, où on va revenir sur tout ce qui s'est passé le vendredi et le samedi pendant les Grands Prix. Hein, pour m'accompagner pour cette première, on peut le dire, c'est le premier, c'est une première.
Ah, c'est la troisième, je te dis.
Oui, ils ne le savent pas, mais c'est la première. Donc, bien évidemment, bonjour Dino.
Bonjour, je te dis. Bonjour, chers auditeurs.
Mais nous avons aussi Bûcheur qui est là.
Bonjour.
Ah, encore?
Bah ouais, je fais Crustal.
Et une personne qui... Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu dans le SAV, quand même. C'est Ben, c'est notre Belge.
Bonjour, bonsoir.
Non, il fait encore jour quand même.
Ouais, mais c'est parce que l'émission sera rediffusée en podcast sur le site, donc tu vois, j'anticipe.
Oui, non,
mais voilà. Il est dans son salon, il voit rien. Il voit même pas la lumière du jour. Il pourrait même pas te faire un live pour décrire l'inclinaison du soleil, tu vois.
Ouais, c'est mieux que d'être
en Zika. Je vais quand même vous faire profiter de mon expertise. J'ai un culot de dingue.
Mais tu fais bien de le préciser, hein, même si c'est vrai que bon, il est très intéressant d'entendre cette émission en direct au beau milieu du week-end de Grand Prix. Elle sera quand même diffusée en podcast, hein, comme d'habitude, via vos flux RSS, vos iTunes, tout ce que vous voulez, quoi. Hein.
Ouais, et puis rassurons les gens quand même, il y aura une autre émission pour revenir sur la course. Hein. C'est pas, on n'a pas décidé de changer la formule et de faire un SAV d'avant le Grand Prix, mais juste avant le Grand Prix. Il y aura aussi un SAV après le Grand Prix.
Oui.
Non, mais ça me semblait nécessaire de préciser parce
c'est
que.
Utile. C'est utile.
On a des auditeurs qui sont un petit peu lents. Je ne citerai personne, mais il y a quelques Belges dans l'assemblée, donc voilà.
Alors, commençons l'émission. D'abord, peut-être, sur les actus du paddock. Alors, là, c'est vrai qu'en Australie, il n'y en a pas forcément eu beaucoup parce qu'on sent que les équipes sont quand même très concentrées sur la course et la nouvelle saison qui arrive. Toutefois, on a appris, il était environ une heure et demie du mat, hein, quand on a appris ça. Eh bien, qu'il y a ce n'est pas le team principal, c'est le team principal adjoint, hein. De chez Lotus, hein. Oui, ils ont recruté quelqu'un chez Lotus. C'est quand même une nouveauté, parce que vu le nombre de personnes qui se sont barrées pendant l'intersaison, hein. Oui. Enfin, ils n'ont pas vraiment recruté. Puisqu'en effet, c'est Federico Gastaldi, hein, qui devient team principal adjoint, qui devrait être un peu le visage de l'équipe sur les circuits. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui a un profil plutôt média, finance, sponsor, et qui apparemment continuera à avoir ce rôle, alors qu'on s'attendait plutôt à quelqu'un plutôt dans le domaine du sportif pour remplacer Eric Boullier.
Voilà. Non, mais c'est une nomination, c'est quelque part un peu surprenant, parce que c'est un nom qu'on découvre. Alors que apparemment il est quand même au poste au niveau, enfin comme le poste dont Shinji vient de parler, il occupe quand même apparemment depuis 2010. Et je pense qu'il était déjà dans l'écurie d'Enstone
apparemment,
avant.
Ouais, il était, enfin il avait des relations avec Enstone depuis très très longtemps. On parle depuis
Benetton. Oui, je pense que même de l'équipe de l'époque Benetton, par exemple. Et même son profil me paraît un peu étonnant. Enfin, en même temps, c'est vrai que le rôle de team principal évolue quand même un peu dans toutes les équipes. On le voit même chez McLaren, qui est quand même avec Eric Boullier, qui n'est pas vraiment team principal, il est directeur sportif, si je ne m'abuse. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu une surprise. On connaît pas du tout le bonhomme. Après, profil étonnant aussi. Bon, je sais pas trop quoi en penser, en fait, parce que...
En même temps, on le connaît très mal, donc c'est aussi...
Mais c'est ça.
Pas, voilà.
Mais sincèrement, moi, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu dit, ah merde, on n'a pas de... Mince, parce qu'on a les pilotes qui sont là, les mécanos, ils sont là, Robert, il est là, la cuisine, c'est là, il nous manque quelqu'un, ah, il y a un fauteuil de vide surmuré, ah merde, il nous manque un team principal.
T'es sûr qu'il manquait que ça chez Lotus ce week-end?
Federico, viens là. Laisse ta caisse à outils, tu vas prendre le poste de team principal. Non mais t'inquiète, ça changera rien à ton poste. Tu feras toujours pareil comme avant, tout c'est nickel, parfait. On va juste dire ça aux médias, comme ça ils vont être contents. On aura annoncé un truc parce qu'on leur avait dit qu'on annoncerait un truc. Ça me fait un peu l'impression, c'est qu'on a attrapé Federico en hop, attends, viens là. et voilà, c'est bon, ça y est, t'es team principal. Mais ça change rien à l'équipe, ça va rien changer. C'est juste un visage qu'on met, mais qui...
Parce qu'apparemment le sportif, ça va être Perman et Lopez.
Oui, mais ça, le sportif, on a le temps de voir. Oui. Parce qu'on regarde le Lotus ce week-end. On est encore très loin du sportif.
C'est le secteur de fiabilité qu'il va falloir faire fonctionner à
fond. S'occuper du sportif chez Lotus en ce moment, c'est pas un job à plein temps, quoi. Au vu des normes, mais c'est assez alarmant, quoi.
On va y revenir. Ne vous
inquiétez pas. J'en doute pas,
Le seul job à plein temps en ce moment, c'est mécano, ça c'est sûr.
Oui.
Ah, chez Lotus, ouais.
Chez Lotus et chez Marussia aussi, apparemment.
Ça a bossé. Chez Lotus, c'est un 35 heures par jour.
Sur le chat, on nous demande s'ils ont toujours une filière PQ. Bon. C'est vrai, il faut toujours que cette blague ressorte de temps en temps avec Lotus. Oui, quand il y a des très bonnes vannes ou des vannes très mauvaises, ça vaut le coup de citer le chat. On est une émission interactive, on n'est pas comme M6, où on fait voter les gens, mais en fait, l'émission, elle est en différé, tu vois.
Mais Lotus qui a quand même viré les logos de Génie Capital sur ses pontons et qui a mis bien en avant les logos de Clear, qui est pas un nouveau sponsor, mais qui est un sponsor qui prend un peu plus de place visuellement. En tout cas, maintenant, est-ce que les finances derrière suivent aussi j'en sais rien. En tout cas, à mon avis, ils en auraient quand même un peu besoin.
Ouais.
Trop bien. Donc c'était à peu près la seule actu, hein, parce qu'il faut avouer que hors, on va dire le sportif, il n'y a pas eu grand chose. Donc passons, évoquons la course, hein, et évoquons son contexte, hein, la course de cette année. Par exemple, le commissaire, hein, ce fameux commissaire pilote cette semaine, c'est encore une pointure de l'histoire de la Formule 1. Non, je plaisante, c'est Emmanuel Epiro, qui est un grand pilote d'endurance. Attention, ne me peux pas dire ce que j'ai pas dit. Au niveau des zones DRS, cette semaine, il y aura deux zones DRS, hein, dans la ligne droite des stands et sur la deuxième ligne droite, donc après le premier enchaînement des virages 1 et 2, j'allais dire 2 et 3, mais non, mais 1 et 2.
C'est les mêmes zones que l'année dernière.
Voilà, c'est les mêmes zones, avec le point de détection qui est avant le virage 14, c'est-à-dire trois virages quand même avant la ligne droite. Il y a quand même un paquet de distance entre la détection et le début de la zone, hein.
Oui, bah, globalement, c'est pas typiquement la même configuration que l'an dernier, quoi.
Ça n'a pas changé. Niveau des pneus choisis par Pirelli. Alors, sur temps sec, ce sont les tendres flanc jaune et médium flanc blanc, même si c'est pas certain qu'on les voit demain, enfin, plutôt cette nuit, enfin, oui, demain matin, on va dire.
Si, en photo. Hein.
On ne sait pas. Il y a des choses.
On les verra, parce que généralement, avant le Grand Prix, ils nous mettent les allocations de pneus, donc on les verra, ces pneus-là. Et ça sera peut-être pas des vrais pneus, mais on les verra.
On les verra.
Et pas sur les voitures.
L'an dernier, Grand Prix d'Australie 2012, vous vous souvenez qui avait fait la pole?
2013, tu veux dire?
Oui, 2013, pardon.
Ah, parce que c'est mal, vous savez. 2013, je sais pas.
C'est Sébastien Vettel, en 1.27. Alors, faut savoir que en Q1, quand même, aujourd'hui, ce week-end, ils sont descendus jusqu'en 1.30. Donc, allez savoir si le temps avait été meilleur, peut-être qu'ils auraient atteint les 1.27.
Ils sont même descendus jusqu'à 1.29 en essai libre. Enfin, les Mercedes sont descendus jusqu'en 1.29 en
essai libre. Oui. Faut préciser parce que...
Précisons, oui.
Sinon, pour être subi d'un optimisme débordant, alors que non.
Au niveau du podium, c'était Kimi Räikkönen qui avait remporté la victoire, la seule de la devant Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a des choses qui vous avaient marqué lors de ce Grand Prix d'ouverture 2013?
Bah, la stratégie un arrêt de Räikkönen qui tire les marrons du feu en n'étant pas si bien qualifié, il était 7e ou 9e si ma mémoire est bonne. Donc c'est la preuve que déjà quand la course se déroule sur le sec, il y a moyen de faire des choses. Donc demain, si la pluie s'en mêle, ce qui risque fort d'arriver, et les nouveaux paramètres, l'essence, notamment la fiabilité et bien d'autres, la course va certainement être très très intéressante à regarder. Il faudra absolument se lever pour regarder ça à 7h du matin en direct.
Mmh. Et ça, puis c'est vrai qu'il y avait eu ces qualifs, vous vous souvenez, en deux parties.
Si c'est ça dire. Que moi je me rappelais plus, c'est les qualifs.
C'est vrai, ouais, plus les qualifs que la course.
Avec le crash de pique.
Ah.
À l'époque où d'ailleurs on se demande si c'est pas le crash de pique qui a inspiré le museau de cette année. Et voilà, c'est parce que cette année les Caterham, t'as l'impression qu'elles ont pas de museau comme si elles s'étaient crashées.
Mais surtout qu'ils ont repeint le l'appendice en noir et du coup il est un peu moins visible et ça fait vraiment l'impression qu'il manque une pièce, quoi.
Mais en fait, du coup, la voiture est beaucoup plus jolie.
Ouais, elle est moins moche. En
fait. Ouais.
Elle est moins moche. Ils ont mis un peu de blanc sur la livrée, ce qui est déjà pas mal. Et moi, sincèrement, je trouvais que le nez, même de face, effectivement, ça se confondait un peu et c'était plus joli.
Alors après, vous êtes des pessimistes, vous vous dites moins moche.
Mais vous êtes optimiste dans la vie.
Je rejoins Bichor, moins moche. Parce que de là dire que la Caterham est belle, on peut pas aller jusque là.
Faut pas pousser, hein.
Et donc, abordons les essais libres, hein. Et j'ai envie de dire le fait marquant, parce que avant d'arriver en Australie, on surveille quand même deux équipes. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le destin croisé de Red Bull et Lotus ce week-end. C'est-à-dire qu'on les attendait toutes les deux, on se demandait qu'est-ce qu'elles allaient faire, et on n'a pas du tout, mais du tout eu le même résultat.
Non, mais Lotus, catastrophe. Hein, c'est... Pour la voiture, elle a a priori la réputation de pas être mauvaise, d'être intéressante d'un point de vue aérodynamique, mais je me demande si c'est pas un fait, si elle est pas un peu cheap en fait, si elle a pas été un peu faite avec des bouts de ficelle vu la situation financière qui est quand même pas encore exceptionnelle, et que ce serait aussi en partie ce qui explique les nombreux problèmes qui sont pas uniquement liés au moteur Renault. La preuve, Red Bull a parfaitement roulé, n'a eu aucun problème. C'est assez inquiétant en fait, sincèrement, pour même pour la suite, là où Red Bull grosse surprise, finalement Lotus c'est aussi une surprise mais dans le moins bon sens.
Voilà, c'est deux extrêmes. C'est vrai que là pour le coup c'est l'accumulation aussi du non roulage quoi. Cette voiture n'est pas prête. On a vu quand même des images en essai libre 1 où ils avaient du mal quand même à fermer le capot moteur, où ils sont allés à la meule pour mettre le nez de la voiture. Enfin c'est des trucs qu'on aurait dû voir. Oui, il y a 3 semaines lorsqu'ils ont commencé les essais.
Ça m'a rappelé les images de HRT il y a 3 ans. Vous étiez arrivé, mais t'as vraiment l'impression qu'ils venaient juste de recevoir la voiture dans les cartons. Et là, c'est exactement pareil, quoi. Lotus, sincèrement, c'est pathétique de regarder Lotus ce week-end. Ça fait mal au cœur, notamment pour Romain Grosjean et même pour Maldonado un petit peu. Ça fait mal au cœur de voir ces pilotes aller en piste en sachant très bien que ils vont pas finir le tour ou que ils vont pas pouvoir aligner un ou deux tours correct. C'est incroyable.
Ouais, j'ai presque plus de peine pour Maldonado qui a presque un côté pathétique tellement il essaye de garder le sourire et de dire que non tout va bien.
Oui, parce qu'au moins Grosjean,
je regrette absolument pas ma décision d'avoir rejoint Lotus, alors que bon chez Williams ils ont quand même des performances même s'il y a un peu décevant en qualif, mais on va y revenir. Qui sont quand même nettement meilleurs que celles de l'an dernier et même que la Lotus qui finalement est encore presque plus mauvaise que la Williams dans une situation en tout cas pire que la Williams de l'an dernier. Et enfin lui il est ses propos sont d'un optimisme débordant, persuadé qu'il va finir la course et pouvoir marquer des points. Enfin, c'est... Voilà, à la minute, tu leur souhaites.
On s'arrête à persuader de finir la course. Déjà, rien que ça, c'est drôle.
C'est,
voilà. Et le mec, il en rajoute une couche en disant, marquez des points. Mais arrête.
C'est vrai qu'au moins, voilà, Romain Grosjean, il s'énerve. Enfin, il cache pas le fait qu'il y a de gros problèmes.
Ouais. Bah, Grosjean, il essaye de rester optimiste parce qu'il a conscience que c'est pas en étant pessimiste qu'il va permettre à son équipe d'aller de l'avant.
Mais j'ai envie de dire que pour le coup, on a d'un côté un Maldonado qui gère un peu ça comme le mec qui attend une voiture. Donc qui serre un peu les fesses, qui est optimiste, qui y croit parce que après tout il paye pour la voiture. Et de l'autre côté on a un gros Jean qui lui est dans une situation où il peut pas forcément se permettre et qui pour moi de mon point de vue véritablement dans une peau de leader, c'est-à-dire qu'il tape du poing sur la table, il râle, on a entendu des conversations radio où il dit mais il y a rien qui est réparé, mais au moins il essaye de créer l'électrochoc et de montrer qu'effectivement que c'est pas satisfaisant ce qu'il a en ce moment entre les mains, c'est pas satisfaisant. Je pense que c'est une méthode qui est peut-être un peu plus brutale vue d'extérieur, mais qui montre plus d'ascendance sur l'équipe que ce que fait Maldonado, qui effectivement a l'air un peu d'attendre et de se contenter de la positive attitude. Mais c'est pas ça qui va amener l'équipe à progresser.
Non, mais moi j'ai beaucoup aimé Grosjean son discours quand il était interviewé par Canal à la fin des qualifs, où effectivement il disait il y a des problèmes tout ça, mais ça va venir. Et après, je ferai pas partie de ceux qui enterrent Lotus tout de suite, parce que le jour où ça tout va se mettre à marcher ensemble, il faudrait peut-être pas. Bon, ça risque d'être.
Oui. La voiture risque d'être performante. Mais là, quand même, donc, ce week-end.
Après, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. La seule chose qui m'a surpris aujourd'hui, c'est que Grosjean a réussi à faire un tour chrono en qualif. Non, mais il a. Faut pas oublier qu'il n'a pas réussi à finir à faire un tour chrono dans les essais libres 3 ce matin. C'était. Je me suis dit, mais il va même pas pouvoir tourner en qualif. Ce qui
mais
était...
je me demande même sur les essais s'il a pas juste passé un quart d'heure depuis le début du week-end, un quart d'heure dans la voiture. Enfin, dans la voiture qui roule.
Oui.
Pas dans la voiture, dans les stands, j'attends qu'elle parte. Non, non, la voiture.
Il a dû faire, 15 tours maximum. Hein. Je crois que la séance où il a le plus roulé, c'est les essais libres 2. Il a fait quoi, 12-13 tours. Donc non, enfin c'est. Et Lotus a véritablement besoin de finir le Grand Prix demain, ne fût-ce que pour accumuler les kilomètres.
Oui.
Et c'est pas en restant dans le stand qu'ils vont apprendre des choses. Forcément, quand tu roules pas, t'apprends rien, quoi. Donc il faut qu'ils roulent rien que pour ça. Ils sont vraiment dans une situation où le Grand Prix sera une séance d'essai grandeur nature.
Et c'est vrai que ce qui est incompréhensible, c'est qu'on a quand même l'impression, on a vu, enfin c'est pour un peu anticiper sur le résultat des qualifs. Quand on regarde le résultat des qualifs dans la Q3, il y a quand même trois moteurs Renault. Mmh. C'était le moteur qui était à la masse et là on a quand même l'impression que les moteurs Renault s'en sortent. Il y a que Lotus qui reste au fond du trou. Donc là c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont commencé leurs essais privés à Bahreïn. Ils avaient l'air plutôt satisfaits, ils étaient plutôt bien. Et là depuis, ils ont
commencé. Oui, enfin quand tu regardes tous les essais, ça n'a pas non plus été la folie. Non, hein.
C'est pour ça que j'ai dit ils ont commencé la première semaine d'essai par rapport par exemple à Red Bull, ils avaient plutôt bien roulé, ils avaient plutôt une assez bonne semaine. La deuxième semaine à Bahreïn, ça a été catastrophique. Et là, on continue. Donc, on est vraiment sur, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de dire que Lotus progresse, j'ai envie de dire qu'il régresse. Pourquoi? Je pense qu'effectivement, il y a peut-être, le côté un peu cheapos des pièces, le côté aussi, il y a peut-être pas forcément aujourd'hui, les moyens humains, les matériels et économiques de pouvoir faire livrer les pièces à temps, de pouvoir les travailler, de pouvoir faire un premier montage. Je suis convaincu que la première fois qu'ils ont monté la voiture, véritablement, c'était ce week-end.
Et justement, peut-être pour évoquer Red Bull, c'est pareil, on leur promettait quand même l'enfer. Et finalement, la voiture roule, elle a pas eu, je parle en essai libre, de soucis. Ils ont fait des tours avec des temps, on va dire dans la moyenne. Je reste sur les essais libres, attention. C'est aussi quand même une petite surprise. Ils étaient quand même super, ils avaient le sourire aux lèvres chez Red Bull quand même.
Ils étaient entre 7 et 9 dixièmes des meilleurs chronos, ce qui champion du monde, c'est décevant. Mais vu l'hiver qu'ils ont eu, ils ont accumulé les tours, ils ont trouvé des solutions manifestement. Et rien que ça, effectivement, grosse surprise parce qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit parce que c'est vrai que Lotus, pendant les essais hivernaux, n'a pas eu des premiers essais pires que les autres écuries Renault, mais on s'attendait quand même à... C'était Red Bull qui semblait souffrir le plus. Maintenant, Red Bull est celle qui s'en sort le mieux, même du côté de Toro Rosso, ça s'est pas mal passé. Il y a effectivement que Lotus qui reste au fond du trou. Caterham a eu des problèmes quand même vendredi.
Oui.
Mais du côté de Red Bull et de Toro Rosso, ça se passe bien. Donc le Renault, je pense que c'est aussi la première fois qu'il pouvait vraiment se servir du V6 à pleine puissance, à fond tout le temps.
Ouais. Alors, pour moi, Toro Rosso, c'est moins une surprise. Parce qu'on avait vu, à part Jerez, où ils avaient, si ma mémoire est bonne, où toutes les équipes Renault étaient à la ramasse, autant Bahreïn, on avait vu Toro Rosso qui était assez solide et constant, j'ai envie de dire.
Pas forcément rapide, mais ça a accumulé.
Il tournait, voilà. Ouais. Et on voit que derrière, ça a payé, et qu'apparemment aussi, ils ont fait une voiture qui est pas si mal née que ça, puisqu'il y a quand même une certaine performance. Bon, même si c'est difficile de juger avec la séance de qualif qu'on a eue, mais voilà, quoi. Après,
Ce qui est très étonnant par rapport à Toro Rosso, c'est que on avait entendu parler juste après les essais de Bahreïn, que Red Bull s'était tourné vers Toro Rosso pour son système de freins. Vous savez, les freins à l'arrière,
Wire. On a beaucoup parlé ce week-end des freins, quand
et
même.
Et là, quand on voit les freins de la Toro Rosso ce week-end, on se demande si c'est pas, en fait, Red Bull qui a pris le système de freins de Toro Rosso et qui leur a donné leur système de freins. Parce que il y a quand même eu un nombre de sorties du côté de Toro Rosso. Et c'est peut-être le point aujourd'hui sur la réglementation actuelle où j'ai mis le plus d'inquiétude parce qu'effectivement, je trouve que c'est dangereux. Les pilotes sont très souvent surpris par le blocage des freins à l'arrière.
Ils sont beaucoup plus rétifs.
Et là, c'est vrai que chez Toro Rosso, c'était à un moment donné, on a Vergne, moi il sort, il reprend la piste, on nous passe le replay, on sort du replay, on nous remonte Vergne qui est encore en train de sortir d'un virage. Mais c'est ce qu'il disait au micro de Canal. Il dit on freine, on ferme les yeux et on espère que les freins arrière vont fonctionner. Sinon, c'est tout qui freine à l'avant et là, forcément, on tire tout droit et on sait rien faire, quoi. Et ouais. C'est vrai que c'est un peu inquiétant parce que si ça se passe quand t'es au cul d'un pilote devant toi, ça va faire carton, quoi. Donc, même au départ, par exemple, si ça se produit au départ, c'est strike. Forcément.
Mais je pense sincèrement qu'au départ, il va y avoir un gros strike.
Ah oui.
Bah ça arrive régulièrement.
Un mec qui vient de la fin de peloton et qui va en dégommer 3-4 devant lui.
Bah déjà Maldonado.
Ah Maldonado.
Si on veut faire les mauvaises langues.
Pour certains aussi, il faudra rappeler que Grosjean aussi part derrière.
Maldonado et Grosjean ils pourront pas parce que de toute façon ils arriveront pas à quitter la ligne de départ donc. Je suis méchant. Non. Mais mais c'est le système. Mais le pire, c'est que le système, c'est en fait qu'il est pas, ils arrivent pas à le mettre au point. Ils galèrent tous sur ça parce que normalement, c'est justement pour empêcher ce nouveau système de freinage sur roue arrière, c'est pour empêcher cet effet où quand il y a la récupération d'énergie qui active ou pas, parce que la batterie est pleine ou pas. Et sans ça, ce serait bien pire. Ce serait bien pire.
Oui. Alors sinon, pour le noter, parce que on essaiera de faire la remarque à chaque fois, il n'y a pas eu de troisième pilote cette semaine, en même temps c'est vrai que c'est le début, il faut mettre au point les voitures, ça peut se comprendre.
Chez Ferrari, il y avait Raikkonen.
C'était pas le quatrième pilote,
ça. Ça fait chier, parce qu'en même temps, t'as trop raison, donc...
Mais c'est pas sa faute, on lui a mis plein de boutons sur son volant, il joue avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais c'est vrai que je me rappelle avoir vu la Ferrari en caméra embarquée et ils ont le nouveau volant là avec l'écran.
Oui, avec l'écran.
Et regarder en me disant mais Kimi il doit détester ce volant. Ça doit l'insupporter, il doit avoir demandé au mec de l'éteindre. tu m'éteins cette merde.
Mais toutes les équipes ne l'ont pas, hein. Chez Red Bull notamment, oui, chez Williams non plus.
Enfin, c'était censé être standard, mais c'est vrai que pour l'instant.
C'est standard, mais c'est les équipes ont le choix de le prendre ou pas. Moi, sincèrement, je n'arrive pas à voir ce que ces écrans apportent de plus. Si ce n'est effectivement, alors par exemple, on a Rosberg qui lui a indiqué que ça leur permettait de voir en course la consommation de carburant. Mais en même temps, ça, j'ai envie de dire, on te fout quelque chose dans la voiture pour que le pilote le voit. Mais on voit par exemple chez Red Bull que ils l'ont pas mis parce que ça représente sans doute un poids et que c'est un gadget parce qu'ils savent très bien que par exemple Proclin va dire à Sébastien Vettel s'il faut qu'il économise ou pas. Donc moi j'arrive pas à trouver l'intérêt de cet écran.
Ah, moi si, c'est que du coup on a le rapport de boîte, je sais plus sur quelle voiture c'était, on avait le rapport de boîte qui était vachement en gros, donc on arrivait à bien voir dans quelle vitesse.
Oui, c'est l'intérêt pour nous.
C'est vrai. Oh, peut-être pour le pilote, c'est peut-être toujours intéressant de savoir quel rapport. Après moi je suis d'accord, c'est les infos, c'est l'ingénieur de piste du pilote qui les transmet. Et qu'est-ce que avec les vibrations et tout, mais je me dis mais comment les mecs ils arrivent à lire les trucs sur le volant, quoi. C'est
alors sinon sur ces essais libres, est-ce que vous avez d'autres faits marquants? Moi j'ai noté c'est les essais libres 3. Le fait marquant, c'est que finalement, il n'y a pas eu de fait marquant. C'est-à-dire qu'on a vu les voitures rouler, il y avait quand même une inquiétude sur le fait que peut-être certains ne rouleraient pas pour éviter les problèmes et pouvoir participer au qualif. Finalement, on a eu une séance d'essai libre plutôt normale, sans doute aussi parce que comme la pluie était attendue, c'était peut-être mieux de rouler le matin avec un peu de pluie pour voir ce que ça donnait.
Moi, ce serait Lewis Hamilton. Qui a cassé son, enfin qui, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé.
Il parle d'un capteur, je crois.
Alors là, il s'est arrêté au bout de 9 virages.
C'est quand même la première voiture qui a eu un pépin cette année, c'est la Mercedes.
Oui.
C'est
alors moi surtout ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont, alors c'est très compliqué parce que moi j'ai lu un article qui avait dit qu'ils avaient détecté un problème jeudi soir, qu'ils avaient changé le moteur mais que ça n'aurait pas d'incidence. Et d'un autre côté, on nous a expliqué notamment sur Canal+ qu'ils avaient changé le moteur, ils allaient changer tout le groupe propulseur après les essais libres.
Oui, ça allait s'entendre et puis
en nous disant que ça allait pas changer la location, alors va falloir que je me replonge dans le règlement, mais j'ai le souvenir l'année dernière que quand on mettait un moteur et que le moteur passait la ligne de sortie de voie des stands, il était considéré comme utilisé. Donc si tu le casses même dans le premier virage, C'est, il est cassé, il est cassé. Il y a décompté de ton compte. Alors peut-être que cette année, il y a eu une petite subtilité réglementaire pour dire voilà, bon, on reste sur 5 moteurs, comme ça la FIA, elle, ne change pas. Ils restent sur leur objectif de 5 moteurs, mais les conditions pour changer de moteur et les passe-droits sont un peu plus légers. Et là, par exemple, voilà, on a permis à Mercedes, qui n'avait pas dépassé la ligne de chronométrage, de changer de moteur. Et je trouve quand même cette histoire très très suspecte.
Oui, moi aussi.
Je pense que la FIA essaye d'aider Mercedes.
C'est ça que t'as remarqué ou c'est après quand il est rentré et que c'est lui, vous avez votre accréditation. Je suis Lewis Hamilton. Oui, mais vous avez quand même votre accréditation.
mais c'est ça qui, moi sur ce truc là, ça m'a fait rire, mais en même temps, c'est normal qu'on demande à un pilote qui arrive casqué de l'extérieur, qu'on lui demande son identifiant. Le mec, il est casqué, rien te dit que c'est vraiment Lewis Hamilton. Donc là, t'avais le cas de Kimi, on lui a pas demandé parce qu'on l'a fait passer. Il y a quelqu'un du service de presse qui est venu le chercher. Il est passé à côté, donc on savait que c'était Kimi. Il était pris en charge par quelqu'un de Ferrari. Là, t'as un mec qui rentre dans le paddock avec un casque, avec une combinaison. T'es pas obligé non plus de croire sur la foi de son casque que c'est Lewis Hamilton. Donc, on s'est un peu moqué du mec, mais en même temps, j'ai envie de dire, il a fait son travail. Voilà, il a fait son boulot.
Tu sais que quand, enfin, l'année dernière à Spa-Francorchamps, quand Helmut Marko arrivait dans la zone salle de presse, salle de conférence de presse, etc., il devait aussi montrer son passe au steward qui était là censé surveiller. Donc, il y a pas de raison que.
Bah, c'est normal. Et
effectivement, à double titre, puisque Hamilton là, il était casqué et qu'effectivement, ça peut très bien être n'importe qui sous le casque.
On a vu avec le cas Schumacher que on pouvait rentrer n'importe où en se faisant déguiser pour un prêtre. Voilà, il y avait eu cette affaire-là. Alors après tout, pourquoi pas? Ça se trouve, c'était peut-être un journaliste ou un fan qui s'était transformé en Lewis Hamilton.
Mais ça veut dire qu'ils pourront pas le faire, tu vois, parce que bon, hein, ils sont au taquet. Il y a pas de souci. Et vous, Bouchard, Ben?
Ouais, c'est juste, c'est, je sais plus si c'est Hamilton ou, alors par contre, je me souviens plus si c'est un des essais libres 2 ou 3, je veux dire que.
Tu te souviens de rien?
Vague recollection, non, mais le problème, bah, c'est écoute, les essais libres 1 et 2, ça a été très compliqué.
Les essais libres 1?
Et les 2 aussi. Mais, donc, je sais plus si c'est les 2 ou les 3, et il y a une Mercedes, je crois que c'est Rosberg qui a jeté une pièce de plastique, ou une pièce.
Ah, c'est les 3. C'est ce matin.
Oui.
C'est ce matin? Ouais.
Ouais.
Est-ce que c'est d'où vient?
Je sais pas, ouais, on sait ce que c'était.
Mais aucune explication. Apparemment, c'est, je crois que c'est quelque chose qui lui est tombé dessus parce que j'ai vu une vidéo où on voit bien à l'avant.
Couleur, enfin, c'était.
Et non, parce qu'elle elle est vraiment gris métal en fait. On a quasiment l'impression, si tu veux, que c'est une barquette un peu aluminiumisée, tu sais, un peu comme l'intérieur des briques de lait.
Oui.
Le même truc. T'as un peu l'impression que c'est une barquette, c'est peut-être une barquette de frites qui s'est envolée.
C'est un gros truc, quoi. Enfin, c'est genre, oh bah tiens, je sors une armoire normande de mon cockpit.
Mais non, mais en fait, c'est-à-dire que ça, apparemment, ça tombe, enfin, ça se trouve, hors du champ de la caméra. Il le récupère parce que ça lui gêne sur le côté de sa tête. Et c'est là où ça rentre dans le champ de la caméra et qu'il va s'arrêter pour le jeter. Moi, je pense que c'est effectivement une sorte de, il va au ralenti, quoi. c'est une sorte de carton qui a volé et qui est tombé sur le côté de son casque. Après, je pense pas, parce que si ça avait été une pièce métallique, là, faudra m'expliquer d'où elle vient et faudra surtout m'expliquer comment lui a pas pu le moufter. Voilà. On sait qu'on a en NASCAR par exemple, ça arrive souvent qu'il y ait des débris comme ça sur la piste, des débris du public, du plastique, des canettes qui viennent un peu polluer la course. Donc je pense que c'est peut-être pas forcément quelque chose de grave, c'est peut-être juste un bout d'aluminium
alimentaire, on va dire.
Ouais, mais c'est vrai que la forme est assez bizarre. C'est peut-être quand je l'ai revu, j'ai pensé, tu sais, quand t'achètes des petits modèles de voitures,
oui.
T'as la voiture souvent qui est accrochée sur un carton qui fait des angles et compagnie. Et je me dis, ouais. Ça se trouve, c'est peut-être ça.
Ah oui.
Il a déballé sa voiture. C'est vrai, c'est le reste d'emballage de sa Mercedes. Et toi, Ben?
Moi, le bon début de Ferrari qui rentre quand même un peu, c'est librement très belle surprise. On s'est dit, ah ouais, Ferrari quand même peut-être pas mal. Et finalement, ils semblent pas être beaucoup mieux que début 2013. Ils étaient pas forcément dégueulasses, mais voilà.
Et c'est vrai qu'en fait, ça a été la surprise de ces essais libres, c'est qu'on s'est dit, en fait, il y a rien qu'à changer.
Enfin, à part un petit peu l'ordre, mais tu retrouves devant les Mercedes, les Red Bull, les Ferrari, les McLaren. Bon, t'as la Lotus. Bon, en de toute façon, en essai libre, on la voyait pas. Il y a en qualif non plus. Mais après, t'avais un peu le ventre mou du peloton avec Williams, etc. Il y avait eu un petit peu de changement, mais t'avais toujours le même groupe. Et puis à la fin, bah, tu retrouvais les Marussia et les Caterham. Donc en fait, c'est vrai qu'au final, moi, j'étais presque déçu. Je me suis dit merde. En fait, on n'aura pas de grands changements. On est un peu sur les mêmes équipes. Donc, je suis très content, notamment pour Red Bull, parce que ça met Red Bull dans une bonne situation pour dans l'intérêt de tout le monde. Je voulais pas que ce soit une catastrophe pour Red Bull. Mais tu peux pas t'empêcher de dire, ouais, c'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on aurait aimé que ce soit.
Oui.
C'est pas 2009, quoi.
D'ailleurs, ça a été l'occasion de beaucoup de d'enfin entendre, parce que bon, il y avait les conditions bon de d'essai. Mais là, voilà, on a entendu vraiment ce que c'était que les F1 en 2014, avec ce son particulier, certains diront un non-son.
Ah ben, c'est un son qui est casse-couille. Autant, le son est très joli, la voiture, les voitures qui passent en bord de piste, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Mais sincèrement, c'est pas du tout agréable quand t'as le casque sur les oreilles et que t'entends ça pendant une heure et demie. Sincèrement, à un moment donné, ça m'a fatigué. Et les caméras embarquées, je crois que c'est le pire.
Ah, me parle pas des caméras embarquées.
Les pneus et tout.
Non, moi, sincèrement, je parle des caméras embarquées,
Ah, parce que j'ai cru que je les aurais baffés ce matin, Canal. Ils te disent, ouais, profitez pour écouter le nouveau son du moteur de ce tour en caméra embarquée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pas arrêté de tchatcher pendant tout le tour. Super pour écouter le nouveau bruit du moteur.
Ah, moi, sur le bruit du moteur, bon, d'abord, j'ai pas écouté ça avec un casque sur les oreilles, hein. Mais j'ai pas trouvé ça dégueulasse du tout, quoi. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on a eu l'habitude d'entendre avec les V10, les V8. Mais j'ai pas trouvé ça dégueu et surtout on sent que c'est quand même un peu nerveux. Et moi j'ai bien aimé aussi voir les voitures. On a vu des pilotes vraiment corrigés. On sent que la voiture est beaucoup moins facile à conduire que les autres années. C'était encore plus flagrant parce que en qualif parce que les conditions de piste étaient un peu délicates. Donc moi la F1 2014 de ce point de vue-là me plaît assez. C'est juste dommage qu'elle ait une sale tête, mais mais ça, mais la FIA va s'en occuper pour 2014.
Oui, ah, tiens, vous voulez une vraie anecdote SAV, hein, parce que bon, après l'enregistrement du SAV de jeudi, ceux qui étaient là en after le savent, c'était même plus une after, c'était une night. C'est une night qui s'est prolongée jusqu'aux essais libres, hein. Et à un moment, donc, je suis habitué au bruit et tout ça, et j'entends un... Bon. Bûcheur, il sait, parce qu'il sait que c'est lui dont je parle. J'entends un... régulier. Et en fait, au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte, parce que je pensais que, tu sais, c'était les crissements de pièces et tout ça. Et non, en fait, au bout de 10 minutes, je me suis rendu compte que c'était Bouchard qui ronflait.
Mais par contre, c'est ce qui est très intéressant, c'est alors autant moi, j'ai trouvé sur la longueur le bruit. C'est pas le bruit c'est pas le bruit de la voiture. C'est parce que le bruit effectivement est très joli et bon, on va reparler un peu du comportement des monoplaces qui est hyper intéressant. Mais le bruit de la voiture lui-même est très sympa. C'est plus la continuité. C'est vrai que c'est un bruit qui est moins. Il y a ce bruit de fond en fait derrière le bruit du turbo. Il y a ce bruit de fond qui est tout le temps là et ça t'occupe tout le temps la tête. C'est ça qui m'a fatigué. Là où le V8, t'avais des changements de rythme, ça te reposait un peu.
Ouais, il y a moins de nuances avec le V6. Ouais.
Mais au niveau du bruit, ce qui est super agréable, ça a notamment été dit plusieurs fois sur le chat, ce qui est très agréable, c'est que tu redécouvres tout un univers sonore, le bruit des pneus, le bruit dans les accidents, quand il y en aura, on va redécouvrir le bruit du carbone, le bruit, on avait Massa pendant tous les essais, son fond plat tapé sur les bosses dans la ligne droite, on entendait le fond plat tapé, c'est des bruits qu'on percevait à peine par le passé, et qu'aujourd'hui on redécouvre, et ça évidemment que ça change rien au bruit du moteur, et que je comprends qu'il y en ait certains qui soient déçus par le bruit du moteur, mais c'est aussi pour dire que voilà, à quelque chose qui peut nous sembler négatif, mine de rien, ça nous fait redécouvrir d'autres bruits qui sont des bruits de véritablement de sport mécanique, et c'est super agréable.
Je suis d'accord.
Rien à ajouter.
Et bien dans ce cas, après les essais, passons au qualif, hein. Et d'abord par la Q1. Ah non, je ne ferai pas de place du coup de Guignol cette année parce que hein, c'est la nouvelle génération, faut laisser la chance, hein.
Oh, c'est dommage.
Et puis en plus, on a déjà assez tapé sur Lotus, donc c'est bon.
Parce qu'il y a quand même une belle place du coup.
Hein. Non mais arrête, ils sont déjà au fond du trou. Ils creusent... En même temps, c'est pratique. Ils creusent encore un petit peu plus, ils seront à Enstone. Mais
Mais moi, même au fond du trou, les mecs, je veux taper dessus. Je vois une ambulance, je lui jette des cailloux.
Donc, ont été éliminés en Q1, Max Chilton, Jules Bianchi, les deux Marussia, Gutiérrez, 19e, et c'est vrai qu'il a pas été aidé, il a eu son souci, lui, justement, en essai libre 3, c'est la boîte qu'il a changé.
Ouais.
Bon, ça l'a pas aidé. Ericsson, le rookie qui n'a pas très bien marché. Non, parce que les rookies, voilà, je m'avance un peu, mais les rookies, on les a quand même bien vus, sauf lui, bon. Et puis bon, les deux dernières places, Grosjean, qui a fait un temps.
Hein, ouais.
Vous l'avez dit, il a fait un temps. Et, Maldonado, quoi, bon.
Qui a fait un tour.
Enfin,
qui a essayé.
Qui a tenté.
Qui a récolté des graviers. Mais Bianchi aussi a eu des problèmes pendant la Q1, ce qui explique, je crois que c'est au niveau du software, un truc dans le genre. Et ce qui explique qu'il est derrière Chilton, parce que sinon, comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas de raison que je sois derrière, j'étais devant pour plus essais libres, donc...
Il a même dit au micro de Canal+, c'est la première fois que je me trouve des excuses.
Ouais. Non, il a pas dit ça, il a dit ça fait beaucoup d'excuses, oui, mais c'est la vérité. C'est un vrai pilote, quoi.
Donc, mais il avait pas l'air ravi, hein.
Non, il tirait la tranche.
Je précise pour le chat qui fait la remarque, hein, notamment F14T, hein, oui, non, c'est Chilton qui a fait un meilleur temps devant Bianchi.
Ouais. Mais globalement, les Marussia, moi, m'ont déçu hein, ce week-end parce que ils avaient fait bon avec des problèmes de fiabilité, etc. Mais comme ils avaient montré de bonnes choses lors des essais, notamment par rapport à Caterham, et là ils sont derrière quoi. Donc c'est vraiment décevant. Même si Bianchi dit qu'il aurait pu être devant Kobayashi.
Bah Kobayashi, il a eu un bon timing, je pense aussi.
Oh quand même. Voilà, il arrive quand même à hisser sa Caterham en Q2 quoi.
Ouais non mais je minimise pas forcément la performance.
Par rapport au matériel qu'il a, il fait un bon début de week-end.
Alors, ouais. Pas mal pour une GP2.
Par contre pour moi ce que j'avais pas fait gaffe ce matin au calife, c'est que finalement les Caterham sont vraiment pas loin des en tout cas Kobayashi est vraiment pas loin des Force India niveau temps. On n'a plus une seconde comme on pouvait avoir l'année dernière. Surtout que
oui, parce qu'on a on a Chilton qui fait 1:34.293 et Perez qui fait 1:34.141 en Q1.
Ouais, et Hülkenberg fait 1:33.893 donc il a même pas 3 dixièmes, il est même pas 3 dixièmes devant son coéquipier. Alors qu'on sait que Hülkenberg et même Perez c'est quand même pas des manches donc apparemment donc Caterham et Marussia qui sont pas très loin derrière ont quand même arrivent à coller à Force India.
Sinon, donc, Maldonado, qui n'a pas fait tant, bien évidemment, était au-delà des 107%. Il a été
repêché. Attends, je vais le voir un truc sur le chat. Et c'est vrai que ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Oui. Il y a Quentin F1 qui nous précise que chez Marussia, ils ont la Ferrari en fond d'écran. Et c'est vrai que c'est un peu l'image insolite du week-end. C'est que dans le garage Marussia, il y a un ordinateur. Et le fond d'écran, c'est la photo officielle de la Ferrari.
C'est le rêve. Ouais.
C'est le surfond gris.
C'est l'objectif.
Bah, les couleurs sont les mêmes, ils ont peut-être juste confondu. Hein. Ou alors c'était livré avec l'antivirus, tu vois.
Ah, peut-être, oui.
Mais après, c'est peut-être l'explication, c'est que c'est peut-être l'ordinateur du technicien Ferrari.
Ah peut-être, oui. C'est vrai.
Mais dans ce cas-là, c'est un peu crevard de te pointer dans le garage avec la Ferrari en fond d'écran. Je sais pas, tu mets le logo Ferrari ou un truc dans le genre.
Ou le moteur, juste.
Et donc oui, j'évoquais Maldonado, qui a été repêché. Alors Dino, t'avais quand même été virulent sur la règle des 107%, sur le fait qu'il fallait l'appliquer. Alors les commissaires ont tenu compte des essais libres 3, considérant que ça doit être une des rares fois où il a fait un temps, il était dans les 107%. Est-ce que pour vous, ça a été très 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 clément ou pas?
Bah de toute façon, ils vont pas faire beaucoup de tours demain, donc... Enfin, j'ai pas l'impression que ça va être le cas, en tout cas, malheureusement pour eux, mais...
Je sais pas trop quoi en penser, j'avoue.
Je pense après, que ce serait... on serait pas au premier Grand Prix, je pense qu'ils auraient pas pu... Ils auraient été moins cléments, je pense qu'il y a une certaine clémence, effectivement, parce que c'est le premier Grand Prix, parce que je pense que la FIA a conscience que c'est compliqué pour tout le monde, et que voilà.
Oui, mais ça, cette conscience-là, il l'avait pas quand c'était HRT. C'est ça le truc, c'est que là, on a, voilà, à la limite, moi, ça me gêne pas qu'ils partent demain, parce que ils vont partir, ils seront derniers. Effectivement, il y a très peu de chances qu'ils fassent énormément de tours. C'est quand même très mal barré pour Maldonado et pour Grosjean. Ils ont pas encore fait simulation de départ, donc ils vont sans doute prendre un mauvais départ. Donc, au pire, ils vont être dangereux pour eux-mêmes ou pour l'herbe. Donc, à la limite, qu'ils prennent le départ ou pas, autant les laisser prendre le départ. Mais c'est surtout sur le degré. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la situation de Lotus et notamment de Maldonado, elle est pire encore que ce qu'était celle de HRT il y a quelques années, où HRT avait quand même pu faire quelques tours et quand même pu faire quelques temps, même s'ils étaient très loin, ils avaient quand même pu être là. Là, on est quand même face à une équipe qui est incapable d'aligner 2-3 tours. Donc voilà, moi je pense sincèrement que cette clémence, on voit bien en plus qu'elle se justifie pas, elle se justifie juste pour Lotus, mais qu'il y avait strictement aucune raison de faire appel à la clémence des commissaires et que bah voilà, cette règle des 107%, elle s'applique vraiment de façon politique et ça, et voilà, ça a toujours été le cas.
Oui, ouais. C'est pas une surprise ça.
Vous avez noté des choses sinon d'autres choses sur la Q1, notamment sur ceux qui sont passés par la suite?
Bah ceux qui sont passés, bah on l'a cité, c'est Kamui Kobayashi quoi. C'est presque la seule surprise parce que Lotus effectivement par rapport à ce qu'on a vu le reste du week-end, c'est pas étonnant même s'ils ont pas forcément eu un bon timing avec la pluie, etc. Je pense que même sur le sec, ils restaient coincés en Q1. Je les voyais vraiment pas passer en Q2. Donc la seule surprise, le seul fait vraiment marquant, c'est Kobayashi qui passe
avec Ricardo qui a fait le meilleur temps sur la Q1 quand même.
Ouais. Ça a son importance pour la suite, c'est vrai.
Bah oui.
Non, mais c'est vrai.
Donc, en Q2, les éliminés, Jenson Button, Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel. Là, c'est déjà vachement plus lourd, quand même. Adrien Sutil, Kobayashi et Perez.
Bah, Button, gêné par le drapeau jaune suite à la sortie, oui, de Raikkonen qui faisait mimuse avec son volant. Vettel, c'est un problème de software, je pense. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a mis Renault passablement de mauvaise humeur, hein. Quand Roquelin lui dit qu'il est 12e ou 13e, il fait oui, je sais. Donc,
mais même déjà lors des essais libres, à un moment donné, il freine les roues dans l'herbe et il part en tête à queue. Et derrière, t'as Roquelin qui lui, il part du principe qu'il a peut-être pas forcément vu la réponse, donc il lui dit voilà, t'as mis les roues dans l'herbe. Et là, t'as Vettel, il dit oui, je sais. Mais en fait, la manière dont il le dit, c'est pas, tu sens qu'il est agacé, mais qu'il est dans le contrôle. C'est oh oui, écoute mon petit gars, je sais. Mais il est quand même gonflé que tu lui fasses remarquer.
Non, mais là, tu sens aussi un peu l'orgueil du champion. T'as le petit nouveau Ricciardo, dont on n'attendait pas forcément grand chose, qui passe en Q3, et Vettel, reste coincé en Q2, alors que vraisemblablement, la Red Bull était capable d'aller, se placer dans le top 10, donc, voilà.
Je suis même pas sûr que ce soit l'orgueil par rapport à Ricciardo.
Pardon?
Je suis même pas sûr que ce soit l'orgueil par rapport à Ricciardo.
Non.
Je pense qu'en fait, c'est un pilote Vettel qui a toujours détesté perdre. Bon, je pense aujourd'hui, c'est pas forcément d'être devancé par Ricciardo qui l'énerve. C'est d'être devancé.
Oui.
Tout court.
C'est la première fois depuis un paquet de temps qu'il avait pas fait la Q3, hein.
Je pense que ce qui l'énerve plus, c'est de voir ce qu'il aurait pu faire quand on regarde Ricciardo.
Ricciardo,
ouais.
C'est que voilà, on voit Ricciardo qui fait une perf qui est quand même correct, plus que correct, et que donc il aurait pu au moins faire aussi bien, quoi. Donc tu peux comprendre que se dire qu'il part 12e, 13e, c'est pas tu peux comprendre qu'il soit déçu, quoi. Après c'est comme Grosjean qui crie haut et fort mais il y a rien qui est corrigé dans son casque, voilà, c'est un coup de sang d'un moment, c'est y a pas de quoi forcément
Oui, ce qui compte en plus, enfin, c'est les réactions. Enfin, on voit bien en plus Grosjean derrière qui prend le truc un peu avec le sourire, que voilà, il est un peu détaché et que évidemment il est frustré, il est en colère. Et encore une fois, c'est serein que dans l'effort, les mecs soient frustrés, en colère quand ça tourne mal. Sinon, ça veut dire qu'ils ont rien à foutre en Formule 1, quoi.
Oui, exactement.
Oui, et puis c'est ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment des réactions à chaud, là où les réactions d'interview sont plus contrôlées, gérées par le service presse, etc., plus formatées. Donc c'est bien d'avoir ces réactions-là à chaud. Moi, j'adore ça.
Raikkonen, rien à dire.
Bah, il a joué, il a perdu.
Il a perdu.
Totalement dominé par son jeune, nouveau rookie de coéquipier, un certain Fernando A.
Mais je pense qu'il a aussi eu pas forcément de bol, parce que c'est lui qui s'est ramassé un peu tous les problèmes en essai libre.
Mais depuis le début de l'année, c'est un peu ça.
Ouais, c'est déjà ouais, en essai, ouais.
En essai libre, en essai privé, déjà, il avait un peu accumulé les problèmes et après, bon, on sait aussi que Raikkonen, il est bien quand la voiture est bien. Ouais. Et il veut avoir vraiment la voiture qui lui correspond bien. On sait qu'Alonso, il va quand même avec une voiture qui lui correspond pas trop, bah il va quand même pouvoir en faire quelque chose. Raikkonen, on sait que le moins petit grain de sable qui se met dans la mécanique, ça le grippe lui un petit peu, il est moins à l'aise. Mais je pense sincèrement que ça va s'équilibrer au fur et à mesure de la saison. Il découvre une nouvelle auto, une nouvelle philosophie aussi. L'équipe a quand même changé depuis le temps qu'il est arrivé. Donc il y a quand même des évolutions. Puis il tombe pas non plus sur un gringalet à côté. Donc il y a beaucoup de choses à réapprendre.
Donc sinon on l'a dit, Kobayashi fait 15, ce qui est bien pour sa Caterham. Et sinon Sutil et Perez. Non.
Non, ben pas. Enfin, je veux dire, il y a du monde en face, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément des performances brillantissimes, mais c'est pas non plus forcément hyper décevant, quoi. Ah, parce que à ce niveau de la qualification, il y a quand même pas mal de clients. On a les Williams, on a les Force India. Et à la preuve, il y en a une qui passe. Sauber à sa place, les Toro Rosso qui sont pas mal. Les McLaren, les Mercedes, les Red Bull, donc.
Okay. Après, c'est aussi difficile de juger, comme c'était sous la pluie, c'est, ouais, voilà, on peut pas juger sur la performance pure des voitures et des pilotes, c'est un tout, et puis en plus avec les nouveaux moteurs, avec le surplus de couple par rapport à l'année dernière, sur le mouillé c'est encore plus délicat, voilà, il y a plein de choses à appréhender, et je pense que c'est pas significatif.
À noter qu'en Q2, c'est Rosberg qui a fait le meilleur temps, 1.42, et deuxième, c'était Ricardo, encore une fois.
Il avait pris un abonnement.
Ouais, la surprise était-elle vraiment une surprise?
Mais moi, j'avoue que j'ai quand même été vraiment étonné de ces qualifs avec Ricciardo qui était systématiquement bien devant Vettel.
Bien ça, devant, ouais.
C'est donc alors effectivement, peut-être que la voiture Vettel avait un problème pendant ces qualifs. Hein, je dis pas que c'est la faute de Vettel ou que Ricciardo vraiment est vraiment meilleur. J'en doute quand même. Mais voilà, c'est cet écart-là, j'étais surpris, quoi. C'est tout.
Et donc en Q3, à la 9e et 10e place, on trouve les Williams. Massa 9e, Bottas 10e. Eux ont dit que c'est la pluie qui ont flingué leur Q3, hein, qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux.
À noter que Bottas a une pénalité comme Gutiérrez aussi.
Oui, oui.
5 places pour changement de boîte.
T'inquiète.
Mais je ne m'inquiète pas.
N'aie pas peur. Gigi s'occupe de tout.
Ouais, non, les Williams.
Ben je pensais au vu des
moins fou Q3, on dit qu'elles auraient pu faire mieux.
Ouais, je les voyais en Q3, ça c'est sûr, mais je pensais qu'elles seraient un poil plus devant.
Et je les voyais bien au niveau aux places des Toro Rosso en fait, grosso modo. C'est vrai qu'elles ont été un peu moins impressionnantes que ce qu'on aurait pu penser, mais enfin voilà, les essais privés, ça reste des essais privés. Donc 9 et 10, c'est vrai que c'est un poil décevant. La pluie a sans doute joué, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas. C'est possible. Des voitures, on sait qu'il y a des voitures qui sous la pluie marchent moins bien, d'autres c'est l'inverse. Donc voilà, mais ça fait quand même plaisir de revoir deux Williams dans le top 10.
Ouais.
Surtout que la voiture a franchement de la gueule. Donc même avec ce nez un peu bizarre, je la trouve pas vilaine du tout. Donc ravi de voir Williams et Massa qui est un peu à la fête.
Les Toro Rosso qui font 6 et 8 avec Vergne qui 6e place, je crois que c'est sa meilleure qualif.
Je pense aussi, ouais. Mm. Mais c'est des conditions pour lui, hein.
On le sait, sous la pluie, il est bon.
Dino le rappelle régulièrement aussi. Je pense qu'effectivement c'est un très 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 bon sous la pluie.
Après on voit que Kvyat aussi, enfin bon, ça c'est un peu mal fini, mais il fait aussi voilà une 8e place et son premier Grand Prix. Donc il y a peut-être aussi un bon niveau, en tout cas pour l'instant de la Toro Rosso.
Ouais.
Surtout si même Red Bull commence à leur piquer des trucs.
Non mais
bah, ouais. C'est l'intérêt qui sort Renault aussi. Hein.
Mm. Disons que Kvyat il fait quand même une entrée tout à fait décente dans la F1, ça c'est sûr.
Il met bien la pression sur Vergne.
Oui.
Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin que Helmut Marko se réveille. Hein, il peut continuer à faire la sieste. Pour le moment, il y a Kvyat qui s'en occupe.
Non, et puis la faute de Kvyat, c'est une petite erreur. C'est pas, voilà.
Il est
un peu dans l'herbe. Il abîme un peu son aileron. C'est pas, voilà. Mais c'est vrai que Q3 pour sa première dans des conditions compliquées, pas mal.
Hülkenberg 7e.
Bah, il n'y a plus qu'à faire un tour en course maintenant. Oui. Ça lui est encore jamais arrivé à Melbourne, donc
Le meilleur moteur Ferrari, bah, c'est une Ferrari, c'est Alonso qui est à la 5e place. Mm. Une place un peu attendue pour la Ferrari,
Oui.
Alors, on aurait pris ça il y a une semaine avec satisfaction. Mm. Là, je peux pas m'empêcher quand même d'être un poil déçu.
T'en demandes trop.
Parce que je pense sincèrement qu'il y avait mieux à faire du côté de Ferrari et qu'ils se, enfin, je pense qu'ils se sont embourbés dans une stratégie en partant avec les pneus intermédiaires. Oui. Alonso est le premier à partir avec les pneus intermédiaires. Je crois qu'il s'est même pas arrêté pour en changer. Il a fait toute la qualif comme ça. En tout cas, il est tout le temps resté en pneus intermédiaires. Là où par exemple les Mercedes sont partis avec les pneus pluie forte à flanc bleu. Et voilà, je pense que c'est ce qui l'a pêché un peu. Il a mis un peu de temps à rattraper le retard qu'il a perdu. Il est longtemps resté 8e ou 9e. Et puis, bon, sur la fin, il arrive à signer un chrono avec des pneus qui s'il les a pas changés, qui étaient quand même déjà bien chauds. Donc, il a joué sur cet avantage. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire en calant sa stratégie sur celle des Mercedes.
Mmh. Mmh. D'accord.
L'autre rookie qui s'est distingué, c'est Magnussen, 4e. Qui met déjà bien la pression sur Button.
Ah ouais, clairement.
Ouais, très très belle paire de Magnussen. Sincèrement, je pense que ça va être un pilote vraiment vraiment à surveiller parce que il est rapide, il est c'est pas un foufou. J'ai l'impression que c'est un pilote qui a quand même, d'après les retours qu'on a de certains journalistes sur Twitter ou dans des différents articles, qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est bien entouré. Je pense aussi que dans ce contexte-là, l'arrivée d'Éric Boullier chez McLaren, qui a quand même dû gérer un Romain Grosjean en 2012, qui n'était pas forcément évident, c'est aussi une bonne chose pour lui. Donc la McLaren a l'air pas mal, même si elle est un peu moins bien que ce qu'on aurait pu penser ou espérer. Je pense que c'est un sérieux client, Magnussen, donc ravi de le voir 4e.
Ouais, d'ailleurs, pour l'anecdote, apparemment, il était sur sa première grille de départ 4e, comme l'a été Hamilton lors de sa première grille de départ.
Oui, il arrête pas de se comparer donc, à lui.
Non, c'est un journaliste, moi, qui a vu ça. Et donc, il disait, il veut faire aussi bien qu'Hamilton. Ouais. Dire, au moins, clairement, il a de l'ambition. Il en faut. J'ai envie de dire, s'il a pas d'ambition, il a rien à faire en F1. Mais au moins, il dit, voilà, j'aimerais faire aussi bien qu'Hamilton.
Mais ce qu'on parle à Hamilton, un jour, il nous dira, oui, mais vous savez, c'est parce que je suis danois.
il va gagner au Canada, du coup, Magnussen.
Ah bah ouais, normalement, si c'est le truc.
Ah, moi, je prédis que dans 3 grands prix, il va finir dans le bac à gravier.
Oh, peut-être qu'il va pas attendre le 3e.
À la 3e place, on retrouve une Mercedes, c'est celle de Nico Rosberg.
Alors Rosberg, moi je pense...
Il avait
l'air
content.
Ouais, d'abord il est tiré la tronche. Hein.
Je me suis dit, quand même, il y en aurait plein une 3e place. Voilà, il ferait pas... super content, mais il ferait pas forcément la gueule. Lui, ouais, c'est vrai, il faisait franchement la gueule d'être 3e.
Moi, j'ai l'impression quand même, je me suis dit, chez Mercedes, ils ont beaucoup discuté stratégie pilote, qui sera devant l'autre. Et à mon avis, le mot, c'était le mec qui fait la pole sera le numéro 1 pour le reste de la saison, quoi. Voir la tête de Rosberg, je me suis dit, c'est pas bon signe, quoi. Mais Rosberg, il boucle son dernier tour trop tôt, j'ai l'impression. Tu vois? Les deux autres, que ce soit Ricciardo ou Hamilton, finissent leur dernier tour derrière. Après, c'est là qu'ils améliorent.
Après, dans ces conditions, c'est souvent ça. Hein.
Oui, bah oui. Donc, dans l'absolu, sa perf est pas mauvaise. Il est 3e. Comme on le signale sur le chat, la course sera une autre histoire. Je pense qu'il a peut-être l'avantage, parce qu'il est un peu moins agressif qu'Hamilton. Il va plus pouvoir se brider quand il faudra. Maintenant, est-ce que ce sera payant à voir, mais une 3e, effectivement, c'est pas forcément la catastrophe, quoi.
Donc 2e, Ricardo. Donc on rappelle que certains avaient dit que Red Bull, à la limite, pouvait ne pas aller en Australie. Hein, ça ne servait à rien.
Oh, qui c'est qui a osé dire ça? Dénonce.
Je peux pas citer un gros mot sur le chat du SAV, vous le savez. Essayez de taper son nom, vous verrez, c'est drôle.
Ouais, mais très bonne surprise.
Ah, c'est pas le seul, hein.
Oui.
C'est un grand jeu. À chaque live, on en rajoute, hein.
On cite un nom, puis Dino, il fait, ah ouais, faut que je le rajoute. Non, voilà. Une belle perf, quoi. Une Red Bull en première ligne en Australie.
Et c'est pas Vettel.
En plus, c'est pas Vettel.
Non, mais c'est ça. En plus, En plus, les Australiens sont des vrais fans, quand on le répète souvent, ouais, mais contre, c'est pas un grand, un circuit exceptionnel, mais le Grand Prix est souvent intéressant, et puis, il y a la ferveur des fans qui rajoute au plaisir du monde de la F1 de redébuter la saison là-bas, quoi. C'est, ouais, par et contre, je sais plus
quand Vettel s'est planté, parce que ça aussi on entend bien avec les nouveaux sons des moteurs, le public qui applaudit Vettel.
J'allais y venir, on a bien entendu la clameur des spectateurs quand Ricciardo se place en première ligne.
Oui, ça c'était cool.
Très très sympa, quoi.
Ouais. Oh. Ça était un peu moins quand même avec Vettel.
Non, mais après, moi, sincèrement, sur ce coup-là, ça me dérange pas parce que c'est dans le pays d'origine du coéquipier de Vettel, et en plus, il y a quand même un passif avec un autre pilote australien. Donc voilà, c'est à la limite, ça me choque pas. C'est effectivement, si ça devait être le cas pendant tous les grands prix, que t'as des gens qui applaudissent Vettel quand ils se vautrent. Là ça sera pas sportif, mais bon, là on peut comprendre, ils sont chez eux, leur pilote maison vient de faire une belle performance, en plus ils bavent Vettel, pas qu'un peu en plus, donc voilà, ça leur fait plaisir.
Mais même dans l'équipe Red Bull, je les ai jamais vus aussi joyeux pour une deuxième place.
Mais alors tu sais pourquoi c'est un pilote Red Bull.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des pôles de Vettel, on en a eu plein, ils étaient contents. Mais alors là, pour le coup,
ils ont été parfois tout aussi contents. Mais là, ce qui les rend contents aussi, c'est voilà, c'est quand même une écurie qu'on a un peu critiqué pour avoir choisi Ricciardo, dont on a dit que c'était pas un choix courageux. Bah, finalement, le choix, il est courageux, et pour le moment, il est payant, parce que c'est un pilote qui fait une première ligne, qui arrive à se hisser avec une voiture, qui est pas non plus hyper performante au niveau des Mercedes. Donc je pense que voilà, il y a ça, et puis je pense surtout que derrière ça, il y a surtout la libération après le début de saison où ils y croyaient pas du tout, où je pense qu'il y a quand même eu du doute chez eux. Ils se sont, on le sait, ils ont bossé 18 heures par jour, etc. Et là, c'est la concrétisation. Je pense que la joie, elle vient de là, quoi.
Oui, c'est un soulagement plutôt qu'une. C'est un tout, mais c'est surtout un soulagement.
Alors la grande question, est-ce qu'on aura le multi-thirsty one?
21.
Alors, c'est sorti quoi cette année?
Normalement, oui.
Ah, je suis pas sûr qu'ils sont encore en train de penser à ça, là. Je pense pas qu'ils sont en position de penser à ça en ce moment, mais.
T'imagines les consignes de course chez Sauber?
À peine une matinée.
Et donc, Paul d'Hamilton.
Ouais, une Mercedes.
Et c'est vraiment une surprise d'avoir une Mercedes en pole.
Ouais, vachement.
Alors, on sait que sur un tour, Hamilton peut être redoutable, donc voilà, c'est au volant de ce qui est, à mon sens, la meilleure voiture actuellement.
Oui.
Même si, à mon avis, hein, d'un point de vue purement aéro, je pense que la Red Bull est quand même sacrément bien foutue, et que quand elle aura réglé vraiment tous ses problèmes, je pense que Mercedes a quand même intérêt à gagner les points maintenant,
oui.
Parce que je pense que Red Bull, faut vraiment s'en méfier, quoi.
Mais je pense
qu'elle est très loin, et il faut quand même se souvenir qu'en général, la Red Bull est quand même encore meilleure en deuxième partie de saison. Donc, en profiter pendant que ça dure, quoi. Ça va pas, c'est pas gagné pour Mercedes. J'ai pas l'impression, en tout cas.
Et j'ai l'impression même que les pilotes s'en sont rendus compte, parce que j'ai pas non plus le sentiment que Lewis Hamilton avait explosé de joie, quoi. Il devrait être hyper heureux. Et en fait, on leur donnait 2 secondes d'avance. Enfin, certains leur donnaient 2 secondes d'avance. On leur donnait après 1 seconde d'avance. Et il se trouve que, les écarts sont plutôt serrés, que Mercedes est devant, mais ils sont pas outrageusement devant. Et je pense que dans la tête d'Hamilton, il commence à se dire il faut prendre ça au début parce que ça va peut-être pas durer. On sait en plus que Mercedes, ils ont tendance, c'est chronique ces dernières années, à bien commencer les saisons, mais avoir un petit peu de mal à progresser, et puis au moindre problème à trouver des solutions efficaces. Bon là, visiblement, ils ont mis l'argent qu'il fallait pour que il y ait plus ce type de problème. Mais effectivement, ça aurait été, je pense que du côté des pilotes, on aurait souhaité effectivement avoir 1 seconde d'avance en se disant on peut capitaliser dessus. Là, ils ont 2-3 dixièmes, peut-être une demi-seconde. C'est pas suffisant face à Ferrari, face à la McLaren qui est pas si loin que ça, et face à la Red Bull.
Ouais, et puis c'est quand même, j'ai l'impression, les seuls à avoir vraiment mis sur le tapis la problématique de l'usure des pneus. Même si les pneus Pirelli sont plus durs et plus constants que les autres années.
Oh, il y a Sutil qui s'est plaint, ils étaient trop durs. Oh, putain, il faudrait savoir.
Donc on sait que c'est aussi un problème chronique de l'équipe, la gestion des pneus. Donc voilà. c'est pas gagné. Ils ont joué quand même profil bas tout le temps depuis le début des essais, mais bon, on sentait quand même qu'il y avait une certaine confiance. Et là, le discours reste globalement le même, mais on sent que la confiance derrière n'est plus exactement la même, justement. Donc, tant mieux pour nous. Le spectacle va être vraiment au rendez-vous. Je pense que effectivement, Mercedes a un petit avantage. Red Bull ne pas les écarter trop vite. McLaren, ils sont pas loin. Ferrari, ils
sont là aussi.
Ils n'arrivent pas encore vraiment à bien les situer, mais ils vont être là aussi. Voilà, parce que pour moi actuellement ils sont au niveau de 2013 et début 2013 ils étaient pas mal, donc s'ils arrivent à développer la voiture au-delà du Canada, ils seront encore présents sur le reste de la saison. Donc puis Williams qui peut avoir un coup à jouer pour des podiums, en tout cas sur la première partie de saison, donc pas mal tout ça.
Il y a du potentiel.
Alors en 1:44.231, c'est la 32e pole position pour Lewis Hamilton. Ça a été précisé, il égale quand même Nigel Mansell, il y a plus grand monde devant lui quand même. C'est la 18e pole pour le constructeur Mercedes, c'est la 100e pole pour le moteur Mercedes, et il faut savoir que en termes de victoires, ils sont à 99 victoires pour le moteur Mercedes. Donc peut-être un
peu. Et Renault, ils sont à combien?
Non mais là, ils ont l'occasion de faire un chiffre rond, tu vois, c'est cool.
Ah non, mais c'est parce que comme c'est parti là, pourquoi pas imaginer une victoire de Red Bull demain, quoi. Quitte à être surpris, allons-y jusqu'au bout, quoi.
Alors au niveau de la grille, il faut savoir que donc par rapport au temps de qualif, deux pénalités en effet, Bottas et Gutiérrez ont été rétrogradés tous les deux de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Donc la grille demain, on aura en première ligne Hamilton et Ricciardo, en deuxième ligne Rosberg, Magnussen, Alonso, Vergne, Hülkenberg, Gviat, Massa et Button qui rentrent dans le top 10 pour le coup. Raikkonen 11, Vettel 12, Sutil 13e, Kobayashi 14e. Donc en plus, non seulement il fait un bon temps, mais avec les pénalités, il est quand même 14e hein, avec sa Caterham. Bottas 15e.
Il va marquer des points.
Perez 16, Chilton 17, Bianchi 18, Ericsson 19, Grosjean 20, Maldonado 21 et Gutiérrez 22e.
J'aurais les boules à la place de Gutiérrez. Il fait un temps, il se retrouve dernier.
Non, c'est surtout, il se retrouve derrière les deux Lotus.
Ouais, ah, mais pas longtemps.
Faut pas que je me foire. Ouais, la grande question, c'est est-ce qu'il va se retrouver devant ou dedans?
Marc, tu me diras, vaut mieux être derrière les Lotus au départ que devant. Ça, c'est sûr.
Ouais, bah, ceci dit, Gutiérrez, Maldonado, Grosjean, si on veut vraiment vers les mauvaises langues. Ouais, c'est un trio explosif à l'arrière. Hein.
Ouais. Mais la course va être passionnante, hein, parce que quand tu prends Button, Raikkonen, Vettel, tu prends devant, il y a des petits nouveaux aux avant-postes, c'est très prometteur.
Ouais, et puis même s'il pleut pas, les Williams vont remonter. Si d'après leur dire, c'est la pluie qui a été problématique. Donc si c'est sur même une partie de la course sur le sec, on va
avoir un moment la livrée
où la Williams va pouvoir remonter, intéressant. Quoi.
Ouais.
Ça je veux pas pour dire, le mais coup. J'ai l'impression que la Williams elle a la gueule de bois, elle a bu trop de martini.
Ça pour le coup, on s'attendait à un début de saison avec plein de promesses et là vraiment on est pas déçu quoi. Les cartes sont toutes là bien tirées pour que le Grand Prix de demain soit vraiment très très intéressant.
Alors là, une question sur le chat de Marco qui nous demande Maldonado ne part pas dernier, pas de temps, ce serait normal. Alors en fait, il a été requalifié avant qu'ensuite on attribue des pénalités. On
requalifie
la grille en fonction de l'ordre. On l'a requalifié et une fois qu'il a été requalifié, on a fait une première fois la grille et après on a refait la grille en tenant compte des pénalités. Et même là encore, je pense que ça se pose pas, mais Bottas et Gutiérrez, on a pris leurs pénalités dans l'ordre où elles étaient, où les casses de moteur avaient été signalées. Donc
après,
c'est pour ça que
ne part pas derrière. Il y a des départs des stands, hein. dans des circonstances comme ça, parfois, encore plus.
Ouais, pouf.
Alors, à mon avis, Lotus, ils vont quand même essayer d'arriver sur la grille, quoi.
C'est pas, à quoi bon partir des stands?
Oui.
Dans ce cas-là, tu mets la voiture directement au stand, et les gars, on va pas sortir, ça sert à rien, ils reviennent dans 2 minutes. Non, ne rentrez pas dans le garage, non. Les gars, on reste concentrés, il y a que 2 minutes à tenir. Après, on est en week-end.
Donc finissons sur les pronostics pour la course. Alors au niveau de la stratégie Pirelli, sur le sec, ils ont évoqué 2 à 3 arrêts. Sur le sec, comme on a dit, il y a un risque de pluie qui pourrait chambouler tout ça. Au niveau des forces en présence quand même qu'on devrait voir pendant la course, devant bien évidemment les Mercedes, on l'a évoqué, il y a Ricardo qui peut tirer son épingle du jeu. Et donc, bah, d'abord, le premier pronostic, c'est le podium. Est-ce qu'on va avoir un podium 3 étoiles, entre guillemets, ou bien peut-être qu'il y aura un taureau sur ce podium
Ce sera un bon test, en tout cas, pour Ricciardo, qui est quand même souvent un peu moins bon en course que ce qu'il l'est sur un tour qualif. Donc, partir devant, on va pouvoir voir ce qu'il vaut. Après, sur la victoire, je vais quand même garder ma petite pièce sur Nico Rosberg. Pas pareil. Totalement objectif, hein, mais voilà. Après, j'ai envie de dire podium Rosberg Hamilton pour peu qu'il y ait aucun pépin.
Ouais.
Et puis troisième, vraiment compliqué de dire. Je pense que ce serait sympa d'avoir Ricciardo sur le podium, mais il y a des clients derrière, quoi. Donc même les deux premiers, c'est même pas sûr. Enfin,
ouais. Ouais, je pense
que c'est très compliqué, quoi.
Hamilton, s'il part bien, on peut ne plus le revoir quand même. Donc je verrais bien peut-être Hamilton, Rosberg deuxième, en effet. Oh. Mais ouais, Ricciardo, oui, je le vois bien sur la troisième place.
Et Fernando? Personne n'en parle de Fernando. Bordel de merde.
On te laisse la primeur. On te laisse la primeur.
Moi, je dis Rosberg, Fernando, Lewis. Voilà. Je pense qu'effectivement Rosberg a le. Moi sincèrement, si... honnêtement, si ça doit jouer entre Hamilton et Rosberg pour le titre, je préfère Rosberg parce qu'il est un peu plus dans le style que j'aime. Voilà. Et je pense qu'il a un peu plus d'intelligence de course et que même si en performance pure, il peut peut-être accuser un léger déficit par rapport à Hamilton. Sur l'ensemble d'un week-end, je pense qu'il est bien meilleur. Donc là, ce week-end, ça devrait jouer en sa faveur. Alonso, parce que je pense que voilà, Magnussen et Ricciardo vont un peu décliner et puis voilà,
c'est Alonso. Payer leur jeunesse, beaucoup.
Voilà, enfin,
c'est pas un rookie non plus, Ricciardo, mais.
Et je pense que Alonso aussi, en termes de consommation, je pense que la Ferrari va être assez bonne en course, oui. Et je pense que ça peut les aider. Et Hamilton, j'ai toujours ce doute sur la course. Il a été capable parfois d'économiser, de me faire mentir, mais je pense globalement que je crains qu'en termes de consommation et qu'en termes de gestion des pneus, ça soit un petit peu compliqué pour lui.
Même pour la consommation, je dirais c'est pas qu'Hamilton, hein, parce que même Rosberg, il le disait, il a les consommations sur son volant. Il disait c'est pas gagné pour la course, hein, parce qu'il était encore au-dessus de la conso cible, hein, apparemment. Hein.
Mais justement, si c'est déjà compliqué pour Rosberg, ouais. Qui, à mon avis, est plus enclin à se modérer pour essayer de, voilà. Je pense qu'Hamilton, s'il part devant et qu'il voit qu'il peut creuser l'écart, ça va être plus compliqué de le calmer, quoi.
Mais donc, je me demande aussi si du côté de Mercedes, la raison qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu plus serré et qu'ils sont pas très loin devant, je me demande si c'est pas parce qu'ils ont justement un peu sacrifié de la performance qu'ils avaient en trop par rapport à leurs concurrents pour jouer un peu sur la consommation et parce qu'ils sont peut-être un petit peu le couteau sous la gorge de ce côté-là et se dire voilà, on garde un bon niveau de performance mais on sacrifie un peu la performance pour l'endurance. Et c'est ce qu'il faudra avoir demain en course.
Ouais.
Sinon, on a beaucoup parlé de la fiabilité. D'après vous, combien de voitures aura-t-on à l'arrivée à la fin de la course?
Zéro. Je veux juste voir Charlie Whiting se faire chier en classement.
Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas questions de fiabilité ou de conso, c'est qu'il y a aussi le facteur pluie.
Et que oui, mais justement, faut s'engager, on est au moment du pronostic.
S'il pleut, je dis, il y a 10 voitures à l'arrivée. Voilà, paf.
Ouh.
Bah, s'il pleut, ouais, dans ces eaux-là aussi.
Dino.
Non, vas-y, Ben, ça laisse le temps de réfléchir.
J'allais dire que finalement, sur les essais libres, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Il y a eu des équipes qui ont été particulièrement accablées, mais dans l'ensemble, par rapport à ce qu'on a vu pendant les essais privés, la fiabilité n'est pas si catastrophique que ça, quoi.
Mm-hmm.
Donc après, on a eu des grands prix par le passé où la fiabilité était pas forcément mauvaise et où on a eu des grands prix en Australie où il y avait effectivement 10 voitures maximum qui passaient la ligne d'arrivée. Donc s'il pleut, tout est possible. Il y a tellement de paramètres. Ça peut être les freins, ça peut être les batteries du R, ça peut être le moteur en lui-même, ça peut être la consommation, ça peut être une erreur de pilotage. Ça peut être plein de choses et c'est ça qui rend le truc particulièrement
sûr.
Excitant.
Alors Dino.
Alors moi, sur les 20 voitures qui vont prendre le départ, puisque je
tiens pas compte de
Lotus, parce que bon, les Lotus, elles vont faire le tour de chauffe, enfin, oui. Elles vont essayer de faire le tour de chauffe. Moi, je dirais, je suis assez optimiste, notamment parce que je pense que les équipes vont contrôler, les équipes qui ont plus grand chose à jouer, vont contrôler en se disant, faut finir la course, elles vont vouloir apprendre des choses, donc elles vont peut-être baisser un peu le régime, etc., et que on va avoir des abandons que vraiment s'il y a des casses, et donc je dirais 15 ou 16 voitures à l'arrivée.
Ouais, je suis un peu d'accord avec vous, Ben et Dino. Je pense qu'on aura beaucoup moins en effet d'abandon qu'on ne l'imaginait. Après, comme je vous dis qu'il va quand même y avoir la pluie, je vais dire 14, ce qui est pas mal, mais voilà.
Alors on a Yannix qui nous dit sur le chat, au contraire, plus de pluie, ça veut dire moins sollicitation du moteur, mais les abandons ne seront pas forcément dus qu'au moteur.
On a
d'ailleurs vu ce week-end que le problème c'était pas de moteur, mais c'est ces fameux freins électriques à l'arrière qui rendent les monoplaces par moments très surprenantes. Il suffit qu'un pilote se rate surpris à l'accélération par le couple du moteur, qu'il se rate même sur du sec et qu'il en emboutisse deux ou trois, ça peut être des accidents. C'est pas forcément de moteur.
Hein, d'ailleurs, très rapidement, vous pensez qu'il y a des moteurs qui vont partir en fumée?
Oh, c'est ma grosse déception jusque-là. Hein. On disait qu'il y avait plein de moteurs qui allaient casser et tout. Je voulais voir de la fumée. Oh, j'ai rien eu.
T'as pas regardé les essais livrains, hein, toi, parce que Maldonado, il...
Bah non, ouais,
j'ai dormi dans les essais livrains.
Je voudrais juste souligner un truc par rapport à Lotus, c'est quand même que sur leur service communication, on n'a pas perdu le sens de l'humour, parce qu'ils ont quand même publié sur Twitter, en fin de saison, on double les points pour le dernier Grand Prix, et le reste de la saison, on inverse la grille, quoi. Parce que, voilà, je sais pas si ça va durer longtemps, parce que je suis pas sûr qu'ils vont se sortir de l'ornière rapidement, mais faut au moins le reconnaître ça.
Twitter, vous imaginez pas une explosion en série de moteurs.
Une explosion en série, non, mais si ça doit exploser, j'ai envie de dire que c'est presque Lotus qui est la mieux placée pour nous offrir un petit alors, feu d'artifice.
J'allais finir mes pronostics sur ça, mais bon, au vu de l'émission, hein.
Mais attends, juste sur les moteurs, si on doit vraiment s'inquiéter, je pense qu'il faudra s'inquiéter en Malaisie et à Bahreïn.
Oui.
Peut-être plus en Malaisie. En Malaisie, ils vont peut-être d'ailleurs ressortir un nouveau moteur. Je pense qu'ils ont toujours la possibilité de prendre un nouveau moteur, d'en mettre un de côté et de le reprendre après. Mais en Malaisie, ils vont utiliser, je pense, la plupart un nouveau moteur. Et là, avec les températures et la lourdeur qu'il peut y faire, là, le problème risque de se poser. Ici, je pense pas, puis c'est pas un circuit très sollicitant pour le moteur, donc.
Alors oui, comme je disais, pour terminer, je l'avais noté dans mon conducteur, mais finalement, on a un peu apporté la réponse tout le long de cette émission. J'avais marqué Lotus. Une Lotus finira-t-elle la course?
Oui.
Non.
Non.
Est-ce que tu veux pas plutôt qu'on pronostique le tour ou la première ou la dernière Lotus?
Ah ça peut être plus marrant.
Bah abandonné.
Non, s'il dépasse les 15 tours, ce sera déjà bien.
Bah, c'est bien que la première, ce sera au tour 1. Parce que bon, hein, vu comme c'est parti, tour 1.
Attention, je te dis, parce que je sais qu'on a déjà eu dans l'équipe des interprétations différentes sur ce qu'est un tour, notamment dans le cas de Randy Depunier qui s'était cassé la figure
avant le...
sur la D'accord. ligne, etc. Non, qu'est-ce non, que tu appelles un tour?
D'accord, c'est oui, je parle, la voiture a démarré.
D'accord, ok.
D'accord, oui. Non, sinon j'aurais dit, ils ne partent même pas. Non, je dis tour 1, dans le premier tour. Hein, entre le moment où la voiture démarre, où elle revient sur la ligne d'arrivée. On est bien clair. Hein. Et la deuxième... Bon, si je pars du principe que c'est plutôt Maldonado qui va se planter au premier tour... il va comme... j'ai envie de dire 8 tours, c'est son numéro.
En tout cas, pour le moment, je crois qu'il y en a un qui regrette d'avoir choisi son numéro 1.
Alors, Maldonado qui abandonne au 13e tour, ce serait beau.
Sur le chat, hein, vous n'êtes pas, vous êtes dans les mêmes ordres, hein, Bilot, abandon au 2e tour pour Grosjean, 5e pour Maldonado, ou accrochage entre les deux.
Alors, ça mettrait une vraie mauvaise ambiance dans l'équipe. Parce qu'ils ont quand même déjà un passif, les deux, derrière, hein. Surtout en Australie, donc,
Non, allez, je veux des engagements aussi de votre part.
Je pense qu'après 15 tours, il n'y aura plus de Lotus.
D'accord.
Voilà.
Dino?
La question, c'est après combien de tours, il n'y a plus de Lotus du tout en piste?
Voilà, c'est soit au bout de combien de tours, ou tu peux donner des tours précis.
Moi, je... Alors, j'allais dire comme Bilot sur le chat, sauf que Bilot sur le chat nous dit abandon de Grosjean au 30e tour, mais au 30e tour derrière les leaders, donc au 2e tour des Lotus. je pense qu'il y aura plus de Lotus aux environs du 30e tour. Je les vois quand même tenir le coup.
Bouchard.
15 c'est trop peu, 30 c'est trop, je dirais 20, allez, 22e tour. À partir du 22e tour, il y a plus de Lotus.
Voilà, on arrive à la fin donc de cette émission dédiée aux qualifications. Oui.
Il faut que pour terminer, vous comprendrez lundi. Pour terminer cette session de pronostics, il faut que chacun on se fixe vraiment sur un pronostic. Alors moi je me fixerai sur je pense que Lotus, il y aura plus de Lotus au 30e tour.
D'accord.
Moi, je reste sur 15 tours.
Mais ça peut être sur le sujet, sur
le sujet qu'on veut.
Magnussen sur le podium. Je vais prendre Iriska.
Voilà. Allez, c'est la première course de la saison. Je dis Raikkonen dans les points.
Dans les points.
Wow, t'es optimiste.
Toi, tu prends des risques, toi.
Moi, j'aurais dit dans le mur, Raikkonen, mais bon.
Alors, puisque c'est sur le sujet qu'on veut, je vais changer mon sujet pour pas te faire doublon. Je vais faire victoire de Nico Rosberg.
Ah. Oh, c'est pas un pronostic, ça, c'est une divination.
Ouais, alors, tu connais les aléas de la divination.
Voilà, c'est bien, tu vois, on fait des pronostics, on s'engage sur des choses.
Tiens, alors, le maillot. Hein.
Ouais, tiens, sur le chat, J.H. Fiamme a dit victoire de Red Bull, pourquoi pas, soyons fous. Et donc, comme je l'avais dit, nous arrivons à la fin donc de cette émission, ce nouveau format qu'on vous propose cette année, qui aura pour chaque week-end de Grand Prix, hein, c'est pas là que pour l'ouverture de la saison.
Oui, on fait pas ça juste parce qu'on est content de vous voir.
Oui.
Enfin, on est content de vous voir.
On est content de vous voir quand même. Donc on se retrouvera lundi soir pour l'émission d'après Grand Prix
en direct à partir de 20h30.
Voilà, comme d'habitude, on n'oublie pas que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est sur le site savf1.fr. En plus, il s'est refait une petite beauté pour la nouvelle saison.
Ouais. C'est même surtout sur savf1.fr.
Oui.
Ce n'est que sur le savf1.fr.
Et je le répète, je sais pas si c'est resté de l'enregistrement de jeudi, mais parce qu'on vous a dit qu'il y aurait un nouveau site, ça c'est pas le nouveau site. C'est un rafraîchissement de l'ancien site.
Ouais, il est quand même bien rafraîchi. Hein.
Il est très bien rafraîchi, mais voilà, c'est pour vous dire, il y a un nouveau site qui se prépare, mais que, voilà, ça prend du temps. Voilà.
Mais qu'est-ce que tu entends par ancien site? Est-ce que c'est l'ancien site d'il y a 2 semaines ou l'ancien site d'il y a 2 mois? Parce que c'est pas les mêmes. Cette année, on a autant changé de livret du site que Williams.
C'est vrai. Alors sur ce, je vous souhaite tout simplement une bonne course. N'oubliez pas vos réveils demain en Australie. Et je vous lance pas le générique parce qu'il
se lance. À 7h.
Oui, à 7h. Je le lance pas parce que ça se lancera pas. Mais sur le podcast, vous l'aurez.
Est-ce que tu veux que je le lance?
Oui, si tu l'as, ce serait magnifique.
Et moi, je veux bien le lancer. Je ne promets rien.